La fabrique politique. Bonjour et bienvenue sur Campus Grenoble, bienvenue dans la fabrique politique. Nous revoici pour la saison 2. Le principe est toujours le même, en espérant ne pas vous lasser. Dévoiler les mécaniques institutionnelles, rendre visible et si possible compréhensible le fonctionnement de notre République à travers ses acteurs, ses actrices, tous ces petits morceaux de démocratie qui font notre grand bien commun. Aujourd'hui, pour lancer l'année 2020, un morceau délicat, méconnu pour tous ceux qui ne le manient pas au quotidien, la justice des mineurs. En France, lorsque quelqu'un de moins de 18 ans commet ou est soupçonné d'avoir commis une infraction, il est jugé par une justice spécifique, celle des mineurs, avec des instances, des juges, des procédures, des peines particulières. Cette justice à part fait l'objet depuis quelques décennies de vastes débats et réformes, comme nous le rappelle cette archive de 2018.
Le ministre de l'Intérieur suggère une réforme de la législation en matière de délinquance juvénile.
Proposition de loi de l'opposition visant à modifier l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs.
Le gouvernement veut réformer l'ordonnance de 1945.
Elle est dans le collimateur de certains gouvernements depuis des décennies. À son instauration, l'ordonnance de 1945, qui encadre encore aujourd'hui la délinquance des mineurs, avait pour objectif d'éduquer les jeunes délinquants plutôt que les punir.
Mais cette porte ne mènera plus à des prisons. Le bagne d'enfants est mort. Comme à Saint-Maurice, dans ce centre qui pourra servir d'exemple aux autres, on ne parle plus de châtiment, mais de rééducation.
Mais dans les années 90, à la suite des émeutes dans les banlieues françaises, cette philosophie est jugée trop laxiste par la droite. C'est le début des modifications. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, sous la présidence de Jacques Chirac, entame alors des réformes pour durcir la justice des mineurs.
Le garde des Sceaux veut une justice rapide pour les mineurs, une comparution à délai rapproché d'un à quatre mois maximum. Objectif de la chancellerie, gommer le sentiment d'impunité qui favorise la récidive.
En 2002, toujours sous la présidence de Jacques Chirac, l'ordonnance de 1945 continue de se durcir. Le ministre de la Justice, Dominique Perben, propose, entre autres, l'instauration de centres éducatifs fermés ou encore la possibilité de placer un mineur en détention provisoire dès l'âge de 13 ans.
Il faut à la fois la prévention et la sanction faisant d'ailleurs partie de l'acte éducatif.
Plus répressif aussi, Nicolas Sarkozy. En 2006, il a porté d'autres modifications au texte de 1945.
Cette ordonnance a vieilli, parce qu'un mineur de 1945 n'a rien à voir avec un mineur de 2006.
En 2008, cette fois en tant que président de la République, Nicolas Sarkozy fait de la délinquance des mineurs son cheval de bataille, avec toujours en ligne de mire l'ordonnance de 1945. Il compte alors sur sa garde des Sceaux, Rachida Dati, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce texte.
C'est un texte qui a perdu de sa pertinence et c'est un texte qui a parfois perdu de son efficacité. La société de 1945 n'a absolument rien à voir avec la société de 2008.
En 70 ans, l'ordonnance de 1945 a été modifiée une cinquantaine de fois, s'éloignant toujours un peu plus de sa volonté originelle, de l'éducation plutôt que de la répression. Une réalité illustrée par ces chiffres. En 1994, le taux de réponse pénale dans les affaires impliquant des mineurs était de 60%. En 2013, il était de 94%.
Depuis ce reportage, une nouvelle loi a été votée, qui réforme cette fois en profondeur l'ordonnance de 45 et donc la justice des mineurs. Elle sera applicable le 1er octobre prochain. Alors, dans quel sens va-t-elle? Respectera-t-on mieux la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule notamment, dans son article 40, que tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. A-t-on au contraire poursuivi la logique de durcissement qui semblait prévaloir lors des réformes précédentes? Est-ce plus compliqué que ça? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, qui est avocat au barreau du Val-d'Oise, près de Paris, et spécialiste de la défense des mineurs. Bonjour Maître Audier.
Bonjour Mathieu Gauthier.
Merci beaucoup, merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Jean-Baptiste Audier, comme le veut l'usage de cette émission, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on commence par plonger dans le parcours judiciaire d'un enfant ou d'un jeune qui est suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, commencer vraiment dans le réel. Alors j'imagine que justement tout commence par une plainte ou directement par une interpellation par les forces de l'ordre. Peut-être on prend le cas d'une plainte. Comment ça se passe? Comment se met en place la défense du mineur au moment où il y a une plainte qui est formulée contre lui?
Oui, alors, je vais prendre le parti opposé, en l'occurrence, parce que en matière de délinquance des mineurs, c'est rarement, les enquêtes commencent assez rarement par une plainte.
Oui.
Elles commencent un peu plus souvent par une interpellation en flagrance.
D'accord.
Mais bon, ça peut aussi être l'objet d'une plainte. C'est un petit peu plus rare pour une raison assez simple, c'est que les plaintes sont déposées dans des affaires, alors je vais pas dire complexes, mais souvent dans des affaires qui mettent en cause une personne, un délinquant ou un criminel dans le cadre d'une infraction assez lourde et assez grave. Et en ce qui concerne les mineurs, c'est plus une délinquance occasionnelle et qui du coup implique moins de gravité d'abord dans les faits qui sont commis et moins de comment dirais-je, oui, des infractions plus légères, plus moins lourdes que celles qui peuvent donner lieu à une plainte. On va aller déposer plainte pour viol, on va aller déposer plainte pour des faits qui sont assez lourds, et pour les mineurs, les délits qui sont commis sont moins graves, à l'exception notable du trafic de stupéfiants, puisque c'est une infraction dans laquelle on voit de plus en plus de mineurs impliqués, mmh. et qui pour le coup commence systématiquement par un contrôle de police, après une petite surveillance, etc. Mais pour répondre à votre question, que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'une enquête de flagrance ou dans le cadre d'une enquête préliminaire sur un dépôt de plainte, la procédure pénale pour ce temps d'enquête est à peu près le même que pour des majeurs.
D'accord.
C'est-à-dire que il y a alors dans le cas d'une plainte, il y a une enquête préliminaire qui va être faite. Évidemment, on reçoit la victime, on entend sa plainte, et puis ensuite on va mener quelques actes d'investigation pour tenter de vérifier avec des éléments objectifs les faits qui sont dénoncés par la victime avant de confronter.
Quand on dit on,
c'est les services de police.
Là, pour le coup, c'est la police. Il n'y a pas de juge à ce moment-là.
Sous l'autorité du procureur de la République.
D'accord.
Il n'y a pas de juge à ce moment-là. Et on va essayer de recueillir des éléments objectifs avant de confronter le mineur accusé avec les éléments qui ont été recueillis. Quand c'est uniquement la plainte de la victime, nécessairement, la procédure va être un petit peu plus fragile parce que c'est parole contre parole.
Jusque-là, il n'y a pas eu d'avocat.
Alors, jusque-là, il n'y a pas d'avocat.
D'accord.
L'avocat intervient au moment où le mineur est convoqué, où le mineur interpellé se retrouve en garde à vue,
D'accord. Qu'il
est placé en garde à vue ou en audition libre.
D'accord.
L'avocat intervient à partir de la première heure de la garde à vue, en principe.
Ouais.
En réalité, pour des raisons pratiques, on intervient au bout de 2, 3, 4 heures. On a un entretien individuel avec le mineur gardé à vue, d'une demi-heure maximum, et ensuite, depuis la réforme, il y a quelques années, on assiste à toutes les auditions, à toutes les éventuelles confrontations. Alors c'est tout, hein. On n'assiste pas à toute l'enquête. Par exemple, s'il y a une perquisition chez le mineur pour aller vérifier que tel objet qui apparaît dans la procédure se trouve chez lui, évidemment, on n'accompagne ni les policiers ni le mineur dans le cadre de la perquisition, mais on assiste le mineur à sa première, puis éventuelle deuxième, troisième, quatrième audition.
Et alors, quand il est en garde à vue, est-ce qu'il est en garde à vue avec des modalités différentes que pour des majeurs ? C'est-à-dire, par exemple, il y a moins d'heures de garde à vue ou des choses comme
ça ? Non. Alors, oui, en principe, il y a moins d'heures de garde à vue. La prolongation, la garde à vue classique, hein, je ne vais pas parler des infractions terroristes ou des trafics de stupéfiants à l'échelle internationale, où là, la durée de garde à vue est de 96 heures, voire plus d'ailleurs pour le terrorisme. Je vais parler de ce qu'on pratique au quotidien, c'est-à-dire 24 heures de garde à vue renouvelable une fois. Pour des majeurs, ce renouvellement, il est c'est comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que le policier appelle le procureur envoie un fax en disant « je prolonge la garde à vue ». Pour un mineur, alors…
Quand vous dites un fax, ça veut dire que la justice utilise encore des fax ou on est quand même passé au mail ou
On est encore un peu au fax.
D'accord, ok.
Ouais, oui. Ça se modernise, mais
okay,
doucement.
Très bien.
Moins rapidement que la société dans laquelle on évolue. Et donc, il y a deux différences fondamentales. C'est que pour le mineur, l'avocat est obligatoire.
Oui.
Les parents, depuis le 1er septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un petit doute sur la date, mais maintenant, les parents doivent assister également aux auditions.
Ok. Et alors, du coup, l'avocat, j'avance un petit peu. Comment le mineur trouve l'avocat ? D'ailleurs, comment il le trouve et comment il peut se le payer ?
Alors, il y a deux solutions. Soit les parents, lorsqu'une plainte est déposée, qui sont avisés, qui reçoivent une convocation pour emmener leur fils au commissariat, les parents peuvent évidemment, en amont, faire une démarche auprès d'un avocat et demander à cet avocat d'assister leur fils pour la garde à vue à venir. Soit lorsque c'est une interpellation et une enquête de flagrance, dans la quasi-totalité des barreaux de France, voire la totalité, un système de permanence existe et on est un certain nombre. Alors, en ce qui concerne les mineurs, la plupart des barreaux ont un groupe d'avocats spécialisés qui va intervenir et en garde à vue et lorsque le mineur est présenté à un juge des enfants. Et n'importe quel avocat ne peut pas intervenir, sauf bien sûr s'il est choisi par les parents. Voilà, les parents décident de prendre Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas spécialisé dans la défense des mineurs, il peut naturellement intervenir, et en garde à vue, et devant le juge des enfants. Mais lorsque c'est un avocat commis d'office, qui n'est donc pas choisi par les parents, et qui est appelé à venir assister un mineur, sur le barreau du Val-d'Oise, on est en gros une cinquantaine d'avocats à être spécialisés dans la défense des mineurs et à être appelés pour
parce que vous êtes
aller
de permanence,
assister.
Quoi.
Parce qu'on est de permanence, ouais, absolument.
Et après, juste pour finir là-dessus, le mineur et sa famille peuvent éventuellement changer d'avocat ?
Oui, oui, bien sûr. Le changement d'avocat. Le principe, c'est que quand on est commis d'office, bah, par définition, les parents n'ont pas fait de choix. Donc, ils peuvent, s'ils ne sont pas contents de l'avocat commis d'office, ils peuvent naturellement, à tout moment de la procédure, mandater un avocat en allant le voir. Et en le rémunérant, parce que là, pour le coup, on sort du système de commission d'office, et donc, par définition, quand on est commis d'office, on n'est pas rémunéré par la famille, ouais. On est rémunéré par l'État.
D'accord, donc ça ne coûte rien à la famille à ce moment-là.
Ça ne coûte rien à la famille, sauf évidemment, cas de choix d'un avocat. Ouais. Et dans ce cas-là, évidemment, la famille doit rémunérer l'avocat pour ça.
C'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle ou c'est encore autre chose ?
Alors l'aide juridictionnelle, et voilà, c'est pas exactement la même chose. La commission d'office, c'est un système de désignation de l'avocat, ouais. Et l'aide juridictionnelle, c'est ce qui nous permet d'être rémunéré.
D'accord.
Et bon, là, les règles sont un peu différentes d'un barreau à l'autre, mais on va pas rentrer dans le détail, parce que ce serait un peu trop long.
Ok. Et alors ensuite, l'enquête.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dès le début de la garde à vue, un mineur totalement désœuvré, et on parlera, je crois, tout à l'heure des mineurs non accompagnés, ouais. Quelle que soit la situation du mineur, il sera obligatoirement, parce que la loi le dit et parce que les barreaux se sont organisés, il sera assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat et en plus par un avocat, encore une fois, qui est spécialisé dans la défense des mineurs.
Donc l'enquête avance. Est-ce qu'il peut... donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, un magistrat, un juge d'instruction intervient et mène l'enquête. C'est bien comme ça que ça se passe ?
Alors, tant que l'enquête reste... l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance, elle est sous l'autorité du procureur de la République qui, d'accord. À l'issue de la garde à vue du mineur, va prendre une décision, soit de classer la procédure parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, parce que la victime est revenue sur ses accusations, peu importe, soit le procureur de la République va charger un juge du siège de... alors, ça peut être plusieurs choses. Soit de juger directement, parce que l'enquête est suffisante, qu'il n'y a pas besoin d'investigation complémentaire. Exactement.
Okay.
Soit dans les affaires complexes et criminelles, va saisir un juge d'instruction qui, lui, sera chargé, dans le cadre de son information judiciaire, de poursuivre les investigations qui ont commencé pendant la durée de l'enquête, avec des pouvoirs un peu plus étendus que ceux du parquet, et puis avec des investigations en ce qui concerne les mineurs, plus poussé que pour un délinquant lambda. Et il ne faut jamais perdre de vue, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qu'un mineur qui commet un délit, ce n'est pas comme un majeur qui commet un délit ou un crime. C'est la spécificité de la justice des mineurs, c'est que, par définition, un mineur est censé, jusqu'à ce qu'il obtienne son bac, et en tout cas jusqu'à ce qu'il obtienne un diplôme, être chez ses parents, aller en cours, rentrer chez lui, faire ses devoirs. Et donc... Un majeur, évidemment, sort de ce système un peu angélique, mais la justice des mineurs, elle est calquée sur ce qui fait la spécificité d'un enfant aujourd'hui. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent parler de la justice des enfants plutôt que de parler de la justice des mineurs. D'ailleurs, on continue à dire juge des enfants et pas juge des mineurs ou tribunal des mineurs. Cette spécificité-là va accompagner chaque étape. Donc, la garde à vue est plus difficilement renouvelable pour un mineur que pour un majeur. Et les pouvoirs du juge vont s'adapter. Donc le juge fait bien son travail, vont s'adapter justement à cette spécificité qui est qu'on n'est pas là simplement pour juger et pour punir et pour réprimer, on est là aussi pour s'interroger sur ce qui fait qu'un jeune, malheureusement parfois de plus en plus jeune, 12, 13, 14 ans, se retrouve au milieu d'un trafic de stupéfiants ou d'un cambriolage, ouais. Etc.
Et alors le juge, en admettant qu'un juge soit nommé pour poursuivre les investigations, là ce sont... comme pour les avocats tout à l'heure, que des juges spécialistes ou c'est des juges qui peuvent être généralistes, j'allais dire
des juges, oui. Alors, ça va dépendre de la taille de la juridiction et ça va dépendre de la nature des faits. C'est-à-dire que pour juger des mineurs j'allais dire, sur des délits et sur des infractions lambda, c'est le juge des enfants. Donc, dans tous les tribunaux de France, il y a des juges qui sont dédiés à la justice des mineurs.
Pour le juge des enfants, ouais, c'est ça, le juge des enfants, c'est pas lui qui fait l'instruction, on est d'accord.
Alors, c'est pas lui qui fait l'instruction lorsque l'instruction est criminelle ou lorsque l'infraction est tellement grave que on considère qu'on doit poursuivre les investigations de l'enquête et saisir un juge qui va lui être chargé d'informations judiciaires. Okay. Alors, il y a des juges d'instruction dans des gros tribunaux. Sur Pontoise, par exemple, on a 9 juges d'instruction. Il y en a quasiment tous, d'ailleurs, ont l'habilitation mineure. Sur des juridictions plus petites, il va y avoir un juge d'instruction sur les 2 ou 3 qui va être seul en charge des dossiers qui implique un ou plusieurs mineurs, même s'il y a des majeurs.
Sous la forme, avec une habilitation. Il y a une habilitation officielle.
Il y a une habilitation qui, je crois, est à peu près officielle et qui, en tout cas, relève non pas de la loi, mais de l'organisation interne de chaque juridiction. Okay. Mais on considère que, voilà, il faut une certaine spécialisation et une certaine approche pour pouvoir instruire des dossiers qui mettent en cause un ou plusieurs mineurs.
D'accord. On arrive pas loin de la première pause musicale, mais juste avant, donc là, ça termine donc par un procès devant, donc, si j'ai bien compris, un juge des enfants, qui là est spécialiste, on est d'accord ?
Oui, alors là, de toute façon, les mineurs ne peuvent être jugés que par la juridiction spécialisée pour les mineurs. Okay. Le tribunal pour enfants pour les délits, la cour d'assises des mineurs pour les crimes, le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle pour les mineurs impliqués dans une affaire criminelle lorsqu'ils ont moins de 16 ans. Mais c'est de toute façon, un mineur ne peut pas être jugé par une autre juridiction qu'une juridiction spécialisée pour les mineurs.
D'accord, on va aborder ça dans un instant. Une dernière question avant la pause, juste sur l'histoire de la préventive, parce que c'est mentionné dans le reportage. Aujourd'hui, un mineur peut être mis en détention de façon préventive, et, et ceci à partir de 13 ans, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Dans les affaires les plus graves à partir de 13 ans, et dans les affaires moins graves, en gros, ce que votre archive décrivait, et ce qui est une réalité, hein, depuis une dizaine d'années, et la fin Chirac, début Sarkozy, il y a eu un durcissement de la politique répressive à l'égard des mineurs. Et aujourd'hui, un mineur de 16 à 18 ans est quasiment traité comme un majeur délinquant. Et il peut aller assez facilement en détention provisoire. En dessous de 16 ans, c'est plus exceptionnel. Okay.
Merci beaucoup, Maître Audier. On fait une première pause musicale donc avec Mathematics de Mos Def.
Bucka. You know the deal. This is me, though. Beast by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live future shot. It's 5 dimensions, 6 senses, 7 firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, 9 planets faithfully keep in orbit with the probable 10th, the universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal, I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle, hip hop passed all your tall social hurdles like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor better keep your alarm set, streets too loud to ever hear freedom ring, say it back in with your sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chip, you dead now, killing fields need blood to graze the cash cow, it's a numbers game but shit don't add up somehow, like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits, ever seen my pockets like 69 billion in the last 20 years, spent on national defense, but folks still live in fear like nearly half of America's largest cities is 1/4 black, that's why they gave Ricky Ross all the crap, 16 ounces to a 20 more to a key, a 5-minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome. Full of hard niggas, large niggas, dice tumblers. Young teens in prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell but they can rock you a PlayStation. This new math is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's
it's simple mathematics.
Check it out.
I'll revolve around science.
What are we talking about here?
Mighty Mos Def.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? What are we talking about here?
Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 80-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? He on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is 5.15. You best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man. Channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty most definitely.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
Mighty most
definitely. It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
Mathematics.
Vous êtes toujours sur Radio Campus et c'est la Fabrique Politique. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Maître Jean-Baptiste Audier, avocat au barreau du Val d'Oise, qui nous dévoile le fonctionnement de la justice des mineurs en France. Maître Audier, j'aimerais maintenant parler de cette fameuse réforme de l'ordonnance de 45. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire deux mots de cette ordonnance elle-même, de sa philosophie, de ses points forts, de ses limites éventuellement? Voilà, un peu nous faire une petite présentation de cette ordonnance.
Alors, l'ordonnance de 45, il y aurait tellement de choses à en dire. Le principe, c'est qu'effectivement, après la guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mineurs qui étaient dans la rue, qui étaient oisifs, et on a voulu créer une juridiction et une législation particulière pour tenir compte de ce désœuvrement post-Deuxième Guerre mondiale. Alors, je m'amusais en réécoutant votre archive tout à l'heure. C'est vrai, comme le disait la ministre de la Justice à l'époque, c'est vrai que les mineurs de 2000, alors à l'époque elle disait 2008, ouais. Les mineurs de 2020 sont pas les mêmes que ceux de 1945, et surtout, les problématiques ne sont pas les mêmes. Simplement, aujourd'hui, on a un texte qui a été réformé, je crois, une trentaine ou une quarantaine de fois en l'espace d'un demi-siècle. Et contrairement à ce qui était avancé par la ministre de la Justice et les deux députés qui se sont chargés de la commission, alors c'était pas une commission d'enquête, c'était une commission parlementaire sur la délinquance des mineurs.
De quelle époque vous parlez là ?
Qui pour le coup, alors la commission, elle a été réalisée l'année dernière.
Ah oui, c'est ça. Là, vous parlez plus de l'époque de Rachida Dati. Là, on est dans il y a 2 ans. Ok.
Il y a un an et demi, okay. Au moment où Madame Belloubet a indiqué qu'elle entendait
à son tour réformer la
réforme. Réformer. Alors plus que réformer, puisqu'en fait, elle veut faire disparaître de façon même symbolique, mais en tout cas, ne plus parler d'ordonnance de 45 et d'un code de la justice des mineurs. Qui était, alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas très bien compris quelle était la motivation de passer de l'ordonnance de 45 au code de la justice des mineurs, puisque on nous a expliqué que c'était pour la rendre plus lisible, alors qu'en réalité l'ordonnance de 45, malgré ses multiples réformes, est parfaitement lisible et est appliquée de façon parfaitement efficace par les procureurs de la République et les juges des enfants, y compris malgré les différentes réformes qui sont intervenues.
Mais elle voulait casser un symbole, en tout cas. Il y a un truc
elle voulait casser un symbole, okay. Et codifier sous l'intitulé Code de justice des mineurs une ordonnance qui, encore une fois, qu'on pratique au quotidien et qu'on pratique très bien.
Mais elle va quand même changer quelque chose.
Alors, l'idée phare qui a été retenue, il y a deux idées phares, il y en a une un peu gadget enfin gadget. Ça relève plus que du gadget, mais c'est presque pour nous praticiens, c'est une question qui n'a pas grand sens. Okay. C'est l'âge de l'âge en dessous duquel un mineur ne peut pas être poursuivi. Et le deuxième, beaucoup plus fondamental pour le coup, c'est d'inverser le régime qui est fait aujourd'hui de la justice des mineurs. Ce qu'on entend dans la justice des mineurs, quand on va au café, c'est qu'elle est laxiste et qu'elle est lente.
D'accord.
Et il est un fait certain, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a des procédures rapides, mais il y a aussi des mineurs qui sont jugés à 19, 20, parfois 21, parfois 22 ans, devant le tribunal pour enfants pour des faits qu'ils ont commis quand ils avaient 16, 17 ans. Malheureusement, il s'écoule parfois plus de 2, 3, 4 ans entre l'infraction et le jugement. Ce qui peut paraître pour des non-praticiens parfaitement théorétique. Mmh. En réalité, ça ne l'est pas. Et l'objectif et la mesure phare de la réforme, c'est d'inverser ce temps, c'est-à-dire de juger les mineurs, de faire une déclaration de culpabilité tout de suite, avec une peine différée dans le temps. Ce qui se passe concrètement, je vais essayer d'être synthétique.
Oui, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas bien. Ça veut dire qu'on va déclarer quelqu'un coupable de quelque chose avant même d'avoir fait l'enquête ?
Non, mais on va le déclarer coupable. Alors, il faut que je vienne sur ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce soit plus compréhensible. Ce qu'on fait aujourd'hui, pour reprendre la discussion qu'on avait, il y a une enquête où il y a une interpellation, une garde à vue, le mineur est déféré devant un juge des enfants. Je vais prendre le cas classique, pas les cas d'instruction. De toute façon, les instructions sont longues pour tout le monde, que ce soit des mineurs ou des majeurs. Donc là, un mineur qui est pris en flagrant délit de vol, garde à vue, et il est déféré directement après sa garde à vue devant un juge des enfants. Le juge des enfants ne va pas le juger tout de suite. On ne juge jamais un mineur lors de sa première comparution devant un juge des enfants. Il est mis en examen, comme tout à chacun, comme les majeurs dans le cadre des procédures devant le juge d'instruction. On le met en examen et va se passer un temps, et c'est là que le temps est très long, entre sa mise en examen et son jugement. Et parfois un an et demi, deux ans, même dans des affaires pas très graves. Pendant cette période, en fonction de la dangerosité et des antécédents du mineur, on peut le faire suivre par un éducateur spécialisé de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre d'une liberté surveillée ou dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour les affaires les plus graves. Et puis, deux ans après, il est jugé devant le tribunal. Et évidemment, le tribunal va tenir compte dans son jugement, alors pas sur la culpabilité, mais sur la peine, va tenir compte de ce qui s'est passé pendant les deux ans qui ont séparé le passage à l'acte et sa comparution devant le tribunal, pour alourdir ou alléger la peine.
Selon son comportement ?
Selon son comportement, selon le fait qu'il ait recommencé à commettre des infractions pendant ce délai, selon le fait qu'il a respecté la mesure de suivi qui avait été ordonnée, qu'il est allé voir son éducateur et qu'il a démontré à son éducateur qu'il avait réfléchi à son passage à l'acte et qu'il avait compris, etc. Et donc, évidemment, dans la mesure où en plus les faits sont espacés dans le temps, la sévérité est de fait moins évidente lorsque s'est écoulé deux ans et que le mineur a respecté son suivi et en plus n'a pas refait parler de lui, le tribunal va avoir tendance à adapter la peine aux efforts que le mineur a commis. En fait, ce que veut faire la réforme, c'est d'inverser ce temps en donnant une réponse pénale immédiate pour la victime. La victime va entendre que le mineur est coupable, mais simplement, le tribunal va être soumis au même délai, d'ailleurs, puisqu'il n'y aura pas plus de moyens. Donc ça, c'est très clair, ça a été indiqué. Il y a des moyens qui vont être mis, mais ils ne vont pas être mis dans le recrutement d'éducateurs PJJ et dans le fait que les mesures soient plus efficaces. Ils vont être mis ailleurs. On pourra en dire un mot tout à l'heure si vous le souhaitez. Le tribunal la réforme inverse ce temps, c'est-à-dire qu'on donne une réponse pénale tout de suite, on le déclare coupable ou innocent, et dans l'hypothèse où on le déclare coupable, on va différer la peine de 12, 18 ou 24 mois, et on va soumettre le mineur aux mêmes mesures, quasiment, que celles qui ont lieu aujourd'hui, ce qu'on appelle en pré-sentenciel, avant la sentence. Là, ce sera du post-sentenciel. Et deux ans après, si le mineur s'est bien comporté, on lui mettra une peine plus basse. Et si le mineur s'est mal comporté, on pourra aggraver la peine.
Mais je ne piche pas, si deux ans plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, il était innocent.
Ah non, la déclaration de culpabilité, elle va être donnée tout de suite. En fait, là, ce qui change, c'est que précisément, on va tout de suite donner une déclaration de culpabilité ou d'innocence dès son premier passage devant le juge des enfants.
Mais alors du coup, On se demande alors pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, il est simplement
mis en examen. Mais pourquoi si... en fait, moi, dans mon esprit, si on le mettait en examen aujourd'hui et qu'on prononçait une sentence plus tard, c'était pour avoir la possibilité d'investigations complémentaires pour être sûr de savoir s'il était ou non coupable.
Oui, alors ces investigations, en l'occurrence, elles existent dans les textes. Elles ne sont quasiment... elles sont quasiment inexistantes dans la réalité. C'est-à-dire que, oui, le juge des enfants est chargé d'instruire le dossier, et techniquement, il peut effectivement continuer à mener des investigations. Il y en a parfois où c'est nécessaire, et qui sont d'ailleurs faites par le juge des enfants, mais ça reste une part assez infime. Et c'est vrai que du coup, ce délai aujourd'hui ne sert à rien. Et en ce sens, sous une réserve extrêmement importante pour nous autres avocats praticiens, la réforme n'est pas délirante. C'est pas délirant
On a l'impression que ça ne va pas changer grand-chose, finalement.
Alors, ça ne va pas changer grand-chose. Et surtout, ça va nous compliquer notre tâche à nous. Parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, imaginons que je sois de permanence, j'ai un mineur qui est présenté, mais alors, ce n'est pas une permanence comme les autres, et ça arrive malheureusement de plus en plus souvent, j'ai 10 mineurs qui sont présentés dans l'après-midi. Parfois avec des procédures de plusieurs dizaines de procès-verbaux. Sur une simple mise en examen, de passer à côté d'un élément important du dossier, c'est pas très grave, il reste présumé innocent, et les mesures, alors quand c'est des dossiers, évidemment, où on nous demande la détention provisoire, on va éplucher le dossier de façon beaucoup plus approfondie. Quand je vais dans le bureau du procureur et qu'il me dit, bon, bah lui, je demande juste un déferment, je demande rien d'autre que sa mise en examen, si je passe à côté d'un élément, c'est pas très grave. Le mineur va passer devant le juge des enfants le met en examen et il rentre chez ses parents. Donc, c'est rater un élément. Mais dans la prochaine, avec la réforme, si elle est appliquée comme c'est prévu qu'elle soit appliquée, là, pour le coup, pour nous, ça va nous compliquer la tâche parce que, évidemment, il ne sera pas question d'intervenir de façon aussi rapide et aussi urgente dans un dossier où on va nous demander la culpabilité. Même si on ne nous demande pas de peine, il n'est pas question, évidemment, de passer à côté d'un élément, d'une faiblesse de l'accusation. Ça va compliquer le travail des avocats, ça va alourdir la charge des juges des enfants qui devront eux aussi, même s'ils le font aujourd'hui, eh bien, s'assurer dans un temps qui est très court. Aujourd'hui, effectivement, il n'est pas rare qu'à Pontoise, on ait entre 4 et 8 mineurs présentés en une après-midi. Alors, quand c'est pour des mises en examen, passe encore. Mais pour des jugements de culpabilité, là, ça va nous alourdir.
Mais je comprends ça, mais alors du coup, il y a un truc que je comprends, une question que je continue à me poser. Admettons que dans cette procédure accélérée, enfin, en tout cas, dans cette première audition par le juge des enfants, soit prononcée une culpabilité avec une peine remise à plus tard, différée, pardon. Est-ce que quand même l'avocat, en l'occurrence vous ou vos collègues, vous avez la possibilité, pendant le délai qui sépare le fait d'avoir prononcé la culpabilité et le moment où elle devra s'appliquer, est-ce que vous avez la possibilité de nourrir le dossier et de dire « Attendez, vous avez oublié ça ?»
Non. Alors, je pense qu'on aura toujours la possibilité de demander au juge des enfants de ne pas faire droit, comme on le fait aujourd'hui, à la requête du procureur de la République. C'est-à-dire que le juge des enfants... on pourra en parler par rapport à la réforme emblématique de Nicolas Sarkozy qui était la présentation immédiate du mineur, qui par exemple n'est plus du tout pratiquée à Pontoise parce que les juges des enfants refusaient systématiquement et qui consistait en gros à faire une comparution immédiate pour les mineurs. Bon, ça a été abandonné. En tout cas, à Pontoise, on n'en pratique plus. Parce que, justement, encore une fois, juger un mineur, c'est pas juger n'importe qui. C'est pas juger un délinquant lambda. Donc, on pourra toujours, je pense, s'opposer et le juge pourra toujours refuser de suivre les réquisitions du ministère public et de refuser d'avoir recours à cette procédure qui est quand même présentée dans le projet de réforme comme étant la procédure de droit.
Mais pas obligatoire.
Par exception. Alors, obligatoire, de toute façon, le procureur de la République en France, il présente, son métier, c'est de présenter des délinquants à la justice. Et ensuite, c'est la justice qui déclare coupable, qui déclare innocent, qui ordonne un supplément d'information.
Le juge pourra toujours mettre en examen.
Le juge pourra toujours dire, dans un jugement motivé, comme ils le font aujourd'hui, nous ne faisons pas droit aux réquisitions du ministère public. Soit on ne le met pas en examen et on ne déclare pas coupable, soit on a recours à l'ancienne procédure, celle qu'on pratique aujourd'hui. Je le mets en examen et puis je le jugerai plus tard. Et souvent, d'ailleurs, les juges des enfants, et c'est pour ça qu'ils sont souvent présentés, puis alors en plus, Monsieur Rosenweg, président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant très longtemps, a alimenté un peu ce fantasme du juge des enfants un peu débonnaire et qui donnait l'impression de relativiser beaucoup la délinquance juvénile. Les juges des enfants, en tout cas de ceux que je pratique dans la petite couronne parisienne, sont non pas des rebelles, mais ont une grande liberté d'appréciation de ce qui leur est soumis par le substitut du procureur de la République. Ils peuvent refuser certaines requêtes. Évidemment, ça arrive très souvent, ils ne mettent pas en examen des mineurs qui leur sont présentés parce que les dossiers sont... Vous savez, je fais une petite parenthèse, j'ai participé il y a quelques mois à une table ronde au tribunal qui réunissait sous différents thèmes. Donc, j'ai évidemment participé à la table ronde de la justice des mineurs. Il y avait des policiers, des juges, des procureurs, des avocats. Enfin, un avocat en l'occurrence. Et les policiers ont dit quelque chose tout haut que j'ai souvent entendu tout bas dans les commissariats, c'est-à-dire que, et moi je l'ai constaté en pratiquant cette justice au quotidien, les procédures pour les mineurs sont assez souvent bâclées, sont assez souvent mal ficelées. Et l'un des représentants de la police ce jour-là expliquait très simplement qu'ils en avaient un peu marre de travailler dans ces dossiers-là, où ils avaient l'impression que le mineur, une fois arrivé devant le juge des enfants, faisait un sourire, le juge des enfants lui faisait un chocolat chaud et le laissait repartir chez lui. Et que ça mobilisait beaucoup d'enquêteurs et beaucoup d'heures de travail pour finalement un résultat qui ne leur paraissait pas satisfaisant. Bon. Donc, les juges des enfants gardent la mainmise finale sur les dossiers et sur l'orientation qu'ils veulent donner aux dossiers. Donc, cette réforme, elle est en soi, philosophiquement, elle n'est pas mauvaise parce que la limite et l'écueil qu'on découvre aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, c'est que souvent, quand un mineur est jugé 2 ou 3 ans après les faits, bah, la victime n'est pas présente à l'audience. Alors souvent, sans D'accord. doute.
Non, mais c'est vrai que on va devoir faire une nouvelle pause musicale pour poursuivre notre discussion juste après. Juste, on peut dire effectivement qu'on peut comprendre cette philosophie que vous venez de décrire et que en même temps, il y a cette limite que vous avez pointée, qui est que cette réforme, elle devrait aller de pair avec les moyens de la faire correctement. C'est-à-dire que ce qu'on peut craindre, c'est que si des dossiers continuent à être bâclés pour arriver à un jugement beaucoup plus rapide, c'est là où il y a une fragilité.
Évidemment. Et sur les moyens, effectivement, après la pause, il faudra qu'on en reparle, parce que la question des moyens, d'une façon générale, et dans la justice des mineurs en particulier, est au cœur du sujet et au cœur du débat. Enfin, elle devrait être au cœur du sujet des débats, en réalité, elle n'y est pas.
Je dirais même au centre névralgique.
Au centre névralgique aurait été l'expression adéquate.
Eh bien, c'est l'heure d'un nouveau morceau de musique. Je vous propose d'écouter U2, c'est un petit groupe qui démarre, oui. Avec une chanson qui s'appelle Like a Song.
Eh ben, vous allez découvrir. Avec toi.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique politique. Et notre sujet du jour, la justice des mineurs, avec notre invité maître Jean-Baptiste Audier, qui est avocat au barreau du Val-d'Oise et qui vapote tranquillement de l'autre côté, mais qui le fait discrètement, on ne l'entend pas. Jean-Baptiste, il me reste quelques questions relatives à la justice des mineurs pour lesquelles j'aimerais avoir votre éclairage. D'abord, on en parlait un petit peu en off là, pendant la chanson. Ce que vous me disiez, c'est que l'écrasante majorité des enfants qui passent par la justice le sont ponctuellement et puis ensuite retournent à leur famille et finalement c'est la réponse éducative familiale qui prévaut. C'est une toute petite partie qui est prise en charge par le système institutionnel. Mais ce système institutionnel, pouvez-nous en dire quelques mots? À quoi il ressemble finalement? Ce sont qui? Alors je mets de côté du coup les parents qui sont l'acteur principal, mais à côté des parents, qui prennent en charge les mineurs sous main de justice?
Alors, comme on le disait, au niveau du parquet, ce sont des substituts spécialisés dans la délinquance des mineurs, oui. Une juridiction spécialisée avec des juges qui ne font que ça, et des éducateurs. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, et puis c'était pas forcément l'objet de l'émission. Et vous avez deux catégories d'éducateurs. Vous avez des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, oui. Qui s'occupent des mineurs délinquants, ou okay. En tout cas qui sont mises en examen et qui sont prises à partie dans une affaire pénale. Et vous avez à côté l'aide sociale à l'enfance qui s'occupe des mineurs en danger.
Ouais, c'est pour les protéger, c'est tout à fait.
C'est pour les protéger, mais ce que je dis souvent pour présenter mon activité à des gens qui me posent la question, ce que je dis souvent, c'est qu'un mineur qui commet un délit, c'est rarement un mineur dont l'environnement socio-familial éducatif est parfait. Mmh. C'est-à-dire que c'est malheureusement souvent parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour protéger les mineurs qui sont en danger, qui sont à la dérive, que des mineurs ensuite deviennent délinquants et relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse. Et il y a une étanchéité totale entre ces deux institutions. D'accord. C'est-à-dire que j'avais soumis lors d'une réunion parquet, siège, avocat, j'avais mis sur la table, je m'étais interrogé à voix haute pour savoir pourquoi il n'y avait pas plus de fluidité entre ces deux institutions, et j'avais invité les juges des enfants à créer une commission qui serait justement chargée de mettre ces deux institutions en collaboration, et on m'avait quasiment traité d'hérétique. Donc,
ça veut dire que cette logique qui pourrait prévaloir de prévention oui. entre des éducateurs qui protègent et oui. des éducateurs ensuite qui veillent à ce qu'une réinsertion sociale oui. se fasse, ça non.
Non, c'est quasiment impossible. D'accord. C'est quasiment impossible et c'est dommage parce que effectivement, j'ai très peu de. Alors, il y a effectivement l'immense majorité des mineurs que je défends que je ne vois qu'une fois. Mm-hmm. C'est statistiquement, je crois que c'est à peu près 90%. Mm-hmm. Et il y a 10% de la population délinquante juvénile qui nous occupe beaucoup plus et pour lesquels malheureusement la réponse intervient, la réponse pénale. Et le suivi éducatif qu'on tente de mettre en place à ce moment-là, donc par les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui se décompose de la façon suivante. Vous avez des unités de milieu ouvert, qu'on appelle des STEMO, qui, eux, gèrent les suivis éducatifs qui sont mis en place par le juge des enfants dans le cadre aujourd'hui d'une mise en examen avec, par exemple, une liberté surveillée préjudicielle ou une mesure de réparation, mmh. et même parfois un contrôle judiciaire. Donc, ce mineur est confié à ce service éducatif, alors confié de façon ponctuelle, c'est-à-dire que le mineur vit chez lui et a un rendez-vous, en général tous les mois, un par mois, avec son éducateur PJJ, avec lequel l'éducateur peut, évidemment, l'objectif principal c'est de revenir sur les faits commis et de faire réfléchir le mineur sur les enjeux de son passage à l'acte, mais ça peut être aussi, bien souvent, d'aider le mineur et les parents dans des démarches de rescolarisation vis-à-vis d'organismes, bon, parfois avec des parents qui ont un peu de mal à...
Bah, de toute façon, si on considère que la plupart des jeunes dont vous parlez ont été progressivement amenés par tout un tas de circonstances vers la délinquance, on peut comprendre que l'éducateur, son rôle, c'est d'essayer de lui faire sortir de cette spirale-là. Quoi. Et donc de travailler sur le contexte, sur ce qui a fait obstacle à une vie harmonieuse. Quoi.
À une vie harmonieuse. Avec, alors, on l'a mis de côté d'emblée, mais ça tient une part importante dans ce... Encore une fois, je renvoie vos auditeurs à la lecture de ce rapport d'information qui a été fait à la suite de... de la commission d'enquête, enfin c'est pas une commission d'enquête, le mot m'échappe, mais sur la justice des mineurs. Ouais, absolument, une commission parlementaire de Jean Terlier et Cécile Untermaier. C'est un rapport, et pour le coup, j'ai regardé beaucoup de leurs captations audiovisuelles, ils ont entendu énormément de monde, ils ont entendu vraiment tout le monde, tous les acteurs, les juges, les avocats, les éducateurs, l'administration pénitentiaire. Et c'est un... Malheureusement, et ce que je plaide pas, mais ce que je dis dès que je le peux et dès qu'on me donne la parole, c'est que la famille est la grande absente de toutes les réformes. On bricole. Il faudrait évidemment mettre le paquet sur la prévention. Avant que le mineur dérive, parce qu'encore une fois, un mineur...
Pardon, du coup, ça me fait penser, l'éducation nationale, ils sont quelque part dans l'histoire ou pas?
Non. Alors,
c'est incroyable
Oui, mais c'est ça qui est incroyable. Et alors, j'avais mis sur la table le rapprochement entre l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Mais alors, si on doit solliciter l'éducation nationale, ils ont été entendus par les députés dans le cadre de cette commission. C'est aux innocents les mains pleines. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, considèrent, ils se retranchent derrière leur fonction principale, qui est de transmettre le savoir, ce qui est vrai, du reste. Mais ils sont les premiers témoins. Et d'ailleurs, c'est très fréquent que des signalements de mineurs en danger émanent extraordinairement souvent de l'éducation nationale. Ce sont les premiers témoins. Alors, mais eux aussi ont des moyens qui sont limités. Ils peuvent pas faire plus que ce qu'on leur demande déjà de faire. Et parfois, dans des secteurs qui sont très compliqués. Très ponctuellement.
Oui, mais on sait aussi que des stratégies de coopération peuvent se mettre en place malgré des moyens limités, voire même permettre d'utiliser de meilleures manières ces moyens limités. C'est assez fascinant que dans un sujet aussi délicat et complexe que la justice des mineurs, on ait encore le sentiment en 2020 que chacun est dans son couloir de nage, quoi.
J'assistais à une table ronde qui était organisée par une association qui gère justement ces mesures, non pas par rapport aux mineurs délinquants, mais par rapport à l'assistance éducative, qui avait convié tous les acteurs du secteur. L'éducation nationale avait encore plus sa place que moi-même, avocat, qui est assez peu au contact de l'enfance en danger, parce qu'il y a très peu d'avocats. Par définition, c'est pas une matière où l'avocat a un rôle. Et l'éducation nationale n'était pas là, s'était fait excuser en disant que... Et c'est désarmant parce que la justice des mineurs arrive derrière, on lui reproche d'être trop laxiste, et elle a parfois jugé des mineurs qui sont dans une situation personnelle. Moi, j'ai vu des juges, des enfants, moi-même, des substituts du procureur, parfois un peu les larmes aux yeux à l'évocation de la personnalité de tels mineurs qui comparaissaient pour tel délit. Parce que les plus durs sont souvent ceux qui vivent des situations personnelles les plus dures et qui deviennent du coup des durs, des loubards, comme on disait à l'époque. On est passé de loubard à racaille. C'est aussi ça le glissement entre 45 et 2020. Sauf que ce terme de racaille, en réalité, est parfaitement impropre et indigeste. Ce sont des gamins qui sont parfois extraordinairement intelligents. Qui sont livrés à eux-mêmes,
prisonniers du contexte dans lequel ils sont plongés.
Exactement. Et l'éducation nationale et les parents sont les grands absents et systématiquement les grands oubliés de toutes les réformes. On durcit, et à l'époque de ce président qui a gouverné la France entre 2007 et 2012, dès qu'il y avait un fait divers, on prenait une loi pour dire souvent ce qui existait déjà dans la loi ou pour pondre un truc qui était totalement inapplicable. Et on ne s'attaquait pas au cœur parce qu'il y a de moins en moins de moyens humains et financiers.
Oui, c'était la question des moyens. Peut-être vous... J'aurais une question après, il faut essayer de ne pas l'oublier sur la question des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés, mais
oui,
juste un point sur les moyens. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que si on veut avoir une approche un peu globale et préventive, c'est-à-dire efficace de la justice des mineurs, on ne peut pas se passer de moyens conséquents.
On ne peut pas s'en passer et on ne pourra pas s'en passer après la réforme. On ne pourra pas s'en passer après la réforme, puisque, encore une fois, on va déplacer le curseur, mais le suivi éducatif du mineur qui est... Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer mon intervention par là. L'ordonnance de 45, qu'est-ce qu'ils font de la justice des mineurs? C'est que la primauté est donnée à l'éducatif sur le répressif.
C'est l'histoire de la Convention internationale dont je parlais.
Exactement.
Tout au début,
ouais. Et ce que rappelait votre archive, c'est que la priorité, c'est de, évidemment, de réinsérer le mineur. Alors que la délinquance des majeurs aujourd'hui, évidemment, elle est expéditive et punitive et rien de plus. Les mineurs, évidemment, la primauté, c'est le fondement de l'ordonnance de 45. La ministre s'était engagée à ne rien changer du préambule de l'ordonnance de 45, de ce qui fonde la spécificité de la justice des mineurs, c'est-à-dire donner la primauté à l'éducatif. Et quelques mois après, elle fait une annonce pour dire « je vais mettre des moyens dans la protection judiciaire de la jeunesse, je vais construire des centres éducatifs fermés ». Alors que c'est tous les acteurs sont d'accord pour dire.
Mais c'est quoi, votre interprétation de ce glissement? Parce que surtout pour quelqu'un qui a une culture plutôt progressiste au départ, cette ministre-là, comment ça se fait qu'elle ait glissé comme ça?
Mais parce que, alors, c'est soit de la désinformation, soit de l'incompétence. Dans l'absolu, le centre éducatif fermé a été créé à une époque où il n'y avait pas d'alternative entre le suivi en milieu ouvert et la détention provisoire. Et on s'est dit, on va forcer ces jeunes à se... Dans centre éducatif fermé, il y a éducatif et il y a fermé. On s'est ni éducatif ni fermé. Donc, plutôt que de construire 20 centres éducatifs fermés supplémentaires, qui de toute façon sont des structures qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs dedans, il faudrait donner beaucoup plus de moyens sur la prévention de la délinquance des mineurs. Moi, j'ai participé à une association qui avait fait un truc assez épatant. C'était un jeu de société. On allait dans les classes de collège et de lycée. On faisait le jeu de société avec les élèves et ça permettait de faire un peu de prévention, etc. Bah, plutôt que de mettre des moyens dans la prévention, on fait des moyens sur ce qui est déjà un peu répressif, parce que le centre éducatif fermé, même si c'est une mesure pré-sententielle aujourd'hui, qui va d'ailleurs devenir post-sententielle avec la réforme, ça reste du répressif et des, encore une fois, des établissements qui ne fonctionnent pas. Et je renvoie vos auditeurs aux rapports qui sont faits, qui sont publiés très régulièrement sur les dysfonctionnements, mais qui sont les multiples des centres éducatifs fermés.
Entre ça et les documents qui sortent sur la protection de l'enfance elle-même, on sent bien que la question des enfants en danger est un sujet très, très sensible dans notre pays et avec beaucoup de boulot devant nous. Juste avant de conclure, je voulais juste qu'on ait un petit mot sur la question des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés étrangers, donc ces enfants qui arrivent en France sans papier, alors qui peuvent être d'ailleurs confrontés à la justice sans même avoir commis une infraction, juste pour statuer sur leur situation, c'est bien ça?
Alors, moi je ne vais parler que de ce que je connais, c'est-à-dire du Val-d'Oise. Alors là, on atteint le sommet du n'importe quoi institutionnalisé. C'est-à-dire que la plupart des mineurs non accompagnés auxquels j'ai été confronté, c'était quand même des mineurs qui étaient poursuivis pénalement. Mmh. D'ailleurs, systématiquement pour la même infraction, c'est-à-dire que c'est des mineurs qui sont pris à l'intérieur d'un pavillon ou d'un appartement. Les mineurs viennent expliquer que, en fait, ils ont vu que c'était inoccupé et ils sont venus là pour dormir, mmh. Et on les poursuit pour cambriolage et vol par effraction.
Ah, pour vol, d'accord.
Et donc, on sollicite au moment de la mise en examen l'aide sociale à l'enfance, en leur disant, bon voilà, on a un mineur non accompagné, il faut que vous le preniez en charge, et l'aide sociale à l'enfance dit, ah, moi j'ai pas de place, j'ai pas de moyens, je peux pas l'accueillir. Donc on met en examen le mineur sur cette infraction-là, on le renvoie devant le tribunal pour enfants, où évidemment il ne vient pas, parce que même si on a un traducteur assermenté au moment de sa mise en examen et qu'on lui redonne une convocation et qu'on lui explique qu'il faut qu'il vienne pour être jugé, il a des préoccupations qui sont, alors évidemment, hein, tout ce que je dis là pourrait être contredit, mais il a des préoccupations immédiates qui sont assez éloignées de la garantie de représentation et de l'impératif de se présenter devant la juridiction de jugement pour être jugé sur une infraction qui, en plus, bien souvent, ne tient que par l'opinion et le point de vue du procureur de la République et qui est, à mon avis, assez souvent erroné. On ne traite pas. Alors, c'est aussi... mais on revient sur ce qu'on disait juste avant. Encore une fois, tout est une question de moyens. On a déjà du mal à s'occuper des mineurs en danger en France, et on a peu de places d'accueil, on a peu de structures pour accueillir des mineurs qu'il faut placer, qu'il faut éloigner de leur environnement familial parce qu'ils y sont en danger. Qu'est-ce que vous voulez ? On a tous les jours 1, 2, 3, 4, 5 mineurs non accompagnés qui se présentent au tribunal pour voir un juge Le juge est censé prendre une ordonnance de placement provisoire, mais en réalité, ils ne les prennent plus, ces ordonnances. Ou alors ils les prennent et elles sont pas exécutées par l'aide sociale à l'enfance. Et moi, je ne jette la pierre à personne. C'est juste qu'on n'a pas de place, on n'a pas de structure. Donc, on est démunis, et totalement démunis, face à une situation qui, évidemment, a connu une expansion ces dernières années, et avec un nombre croissant de mineurs qui se présentent, et parfois, encore une fois, hein, là je parle des mineurs qui se présentent sans avoir été impliqués dans une affaire pénale.
Ouais, c'est ça qui est...
Des mineurs qui viennent parce qu'on leur explique qu'au tribunal, un juge des enfants va les recevoir et va prendre une ordonnance de placement provisoire. L'aide sociale à l'enfance répond une fois sur dix, ou se déplace une fois sur dix, et bien, alors, quand ils sont pris dans une affaire pénale, moi j'ai souvent vu l'aide sociale à l'enfance venir quand même et prendre en charge, mais c'est des mineurs qui, de toute façon, ne comprennent pas, et des éducateurs qui sont évidemment pas formés pour s'occuper d'eux, et qui, en général, mettent en échec leur placement au bout de quelques jours, parce que c'est pas ça qu'il faudrait faire, mais que...
Voilà. Là aussi, il faudrait une approche globale, des questions de prévention...
Pluridisciplinaire, voilà. Enfin, c'est...
Ok. Bon, écoutez, en tout cas, c'est effectivement cette question des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés, presque un point paroxystique des dysfonctionnements de la justice des mineurs,
oui.
On pourrait dire ça.
Oui, oui. Oui.
Merci absolument. Beaucoup, merci infiniment, Maître Audier.
Bah, merci à vous.
C'était très clair.
J'espère.
Et puis, écoutez, on n'a évidemment pas fait le tour de la question. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette réforme s'applique en octobre et ses conséquences. Si vous êtes d'accord, on vous réinvitera dans cette émission.
Avec plaisir.
Eh bien, merci. Et pour nous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz, juste après un morceau de musique de Radiohead, Fake Plastic Tree.
Un groupe que je ne connais pas. Je suis découvert.
Vous allez voir, c'est super. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of herself. The words are out. The words are out.
Christmas. It was meant. It was meant. It was meant. And if I could be who you wanted, if I could be who
Vous êtes toujours dans la fabrique politique sur Campus Grenoble. C'est le moment de la conclusion avec la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Et aujourd'hui, on fait un détour par les États-Unis qui font, sur ces questions de justice des mineurs, qui font globalement figure d'épouvantail. C'est un article de 2012 et qui s'appelle USA, la justice des mineurs détraquée. Un millier de familles et d'enfants et d'adolescents incarcérés aux États-Unis ont dénoncé dans un rapport un système judiciaire détraqué qui, de l'école à la prison, pénalise les mineurs de couleur et compromet leur insertion. Plus de 2 millions d'enfants sont arrêtés tous les ans aux États-Unis et leur nombre continue d'augmenter en dépit d'une baisse du taux de véritables infractions pénales, souligne cette enquête publiée lundi par l'organisation Justice for Families et l'Institut de Recherche Data Center. À chaque étape du système judiciaire des mineurs, de l'école à l'arrestation, des tribunaux à la liberté conditionnelle, jusqu'à l'incarcération, les jeunes de couleur sont confrontés à des préjugés inconscients de la part des professionnels et des institutions, peut-on lire dans ce rapport. Plus de la moitié des 685 000 personnes arrêtées par la police de New York en 2011 étaient âgées de 14 à 24 ans et 87% d'entre elles étaient noires ou hispaniques. Ce rapport de 56 pages réunit des statistiques ainsi que les témoignages de plus d'un millier de familles et de proches de mineurs incarcérés ou sortis de prison, en majorité des Noirs aux revenus faibles. La justice des mineurs est pleine d'idées fausses et de stéréotypes sur les jeunes et leurs familles, a déclaré Grace Bauer, co-directrice de Justice for Families. Il est temps de réparer ce système détraqué. Le rapport précise que la majorité du budget pour la justice des mineurs sert à l'incarcération, à environ 5,7 milliards de dollars par an. Le goulot de l'école à la prison montre une tendance nationale à pousser les enfants hors de l'école, particulièrement les gens de couleur et de faibles revenus, en direction du système pénal, ajoute le rapport, qui blâme en particulier une politique de tolérance zéro dans l'éducation. Près d'une famille interrogée sur 3 rapporte que la première arrestation a eu lieu à l'école. Les 3/4 dénoncent aussi les conditions de détention dans les prisons pour mineurs, l'absence de programme de réinsertion et tous les obstacles au droit de visite. Éloignement des prisons, coûts et difficultés de transport, horaires des visites inadaptés, quand près de 50 000 jeunes sont séparés de leur famille toutes les nuits aux États-Unis. Le rapport ajoute « l'incarcération ne marche pas, comme le montre le taux de récidive ». Selon l'enquête, 70 à 80% des jeunes remis en liberté sont à nouveau arrêtés dans les 2 à 3 ans et 69% des familles ont jugé difficile ou très difficile de ramener leurs enfants sur le chemin de l'école. Voilà un détour qui fait froid dans le dos, mais la justice des mineurs, on vient de le voir en France, n'est pas dans une situation idéale non plus, loin de là. On espère que la réforme qui est aujourd'hui imaginée aura des conséquences vertueuses. On espère surtout qu'elle aura les moyens de faire de cette justice une vraie justice sociale et de réinsertion. En conclusion, merci beaucoup à Jean-Baptiste Audier d'avoir été avec nous. Maître Audier, donc avocat au barreau du Val d'Oise et spécialiste de la question de justice des mineurs. Merci à Louis pour la technique. Et puis, je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Campus. Et je vous dis à très bientôt.